Alors bonjour à tous, on espère que vous avez bien souffert ce matin, que c'était quand même le but du jeu. Non, je plaisante. Donc comme on vous avait dit les fois passées, cet examen, c'est pas un examen bien sûr qui va sanctionner votre niveau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas effectivement des juges qui allons juger votre niveau. On part plutôt sur un principe d'auto-évaluation. Donc ce que l'on vous propose en fait cet après-midi, c'est plutôt un débat à tous. Donc vous allez essayer, et nous aussi, de notre côté. Nous on est deux, vous êtes beaucoup plus. Vous allez très certainement gagner le débat. On va essayer de fonctionner par rapport au point de vue que vous avez développé dans vos réponses. C'est-à-dire que on va essayer de voir déjà quelle a été votre réponse à chaque question. Et puis on va essayer, comme sur la fameuse question des poux de gala, on va essayer de défendre le point de vue. Alors ce sera très intéressant, certainement. Donc on vous propose de faire ça plutôt vraiment en échange, et puis un aspect véritablement de connaissance et de connaissance personnelle plutôt qu'un aspect vraiment livresque de connaissance rigide et trop structurée. Donc voilà, je ne sais pas si... Tu as quelque chose à rajouter?
Oui, non, ça me paraît effectivement la meilleure façon de débattre.
Je ne me souviens pas de toutes les questions, j'en prends aussi.
Ah, la première question est intéressante.
Je ne me souviens plus, vous avez eu combien de temps pour traiter?
Deux heures.
D'accord.
Pas beaucoup. Hein.
Oh.
Non.
Oh.
Ça, c'est les faillots, ça.
Écoutez, la sixième question, c'est deux mots, juste. Non ? Elle était très facile. Trois mots, allez, trois mots. Rien du tout. Rien du tout. Ok, on y va ? Vous êtes prêts ? Alors... Donc cette première question, bien entendu, c'est la question fondamentale, la question de base, surtout en Occident. Alors avant, on ne se posait pas la question, dis donc, tu es bouddhiste, toi? Par exemple, je ne sais pas, dans l'Inde classique ou au Tibet, forcément, quand on se rencontrait, on ne se posait pas la question, est-ce que tu es bouddhiste? Et on se posait encore moins la question, est-ce que tu es bouddhiste religieux? Alors la question fondamentale, c'est celle-ci. C'est pour nous, que signifie le bouddhisme? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que ça n'est pas une religion? Si ça n'est pas une religion, qu'est-ce que c'est? Nous vous écoutons. L'argumentaire est lancé. Les réponses vont fuser. Oui.
On peut se mettre d'accord sur le mot religion. On discute de la même chose.
Voilà.
Bon,
ben
voilà.
Et voilà.
La balle plus simple.
Louis, on vous reconnaît bien là, effectivement.
Je vous remercie infiniment.
Alors, qu'est-ce que pour vous, effectivement, lorsque l'on parle de religion, qu'est-ce que ça implique? Alors ça, c'était un cours de Philippe, je pense. Oui.
C'est des phénomènes externes qui définissent qui vont déterminer que quelque chose est une religion ou pas.
Externe.
Passe par le fait qu'il y ait une notion de croyance, une communauté, une dimension sacrée, un rapport avec l'au-delà, la notion d'une démarche intérieure, etc. Et donc, y a une notion de... une notion de croyance, de foi, parce qu'il y a la foi dans les enseignements. Là, c'est la réponse, c'est oui. Il y a une notion d'adhésion, parce qu'il y a l'entrée dans le courant. Il y a une dimension du sacré, du profane, ça n'existe pas dans le bouddhisme, donc là, ça ne on fait pas trop.
Dans le vajrasi.
Pas trop, peut-être. Le débat commence à s'étioler, là. C'est...
ça, ok. Il y a la notion d'une démarche intérieure et d'un chemin, avec les règles. Il y a une notion de mystique aussi, dans le bouddhisme, donc ça a aussi un des phénomènes qui sont apparus à la religion. Il y a une notion de pratique avec la méditation. Il y a l'existence d'êtres non humains, donc les dieux, les demi-dieux, les esprits à vie. Donc ça aussi, ça caractérise une religion. Il y a un discours sur le sens, sur la mort, sur une pratique qui vise à aller au-delà. Donc c'est une attitude face à l'inconditionné, en fait, qui va aussi déterminer la religion. Et puis il y a des cultes, des fêtes, des rites. Et donc tous ces phénomènes permettent de dire dans le bouddhisme, oui, est une religion au même titre que le christianisme, l'hindouisme, etc.
Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point de vue-là ?
Pour résumer, pour commencer, définissons ce qu'est une religion. C'est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, dont l'étymologie latine provient de religere. Reliés, donc ce qui relie les hommes entre eux, mais aussi avec un principe supérieur, le dharma dans le cas du bouddhisme. À ce compte, le bouddhisme qui lie et relie les communautés entières à cette voie de salut qu'est le dharma peut être considéré comme une religion. Maintenant, sur le plan de la phénoménologie, qui envisage l'étude des phénomènes tels que croyance, communauté, foi, sacré, profane, culte, rite, pratique, rapport à la mort, sotériologie, c'est-à-dire en fin de compte voie de salut, etc. Le bouddhisme répond positivement à ce questionnement en tant que religion non théiste, dépassant ainsi les seules acceptions de spiritualité et de philosophie, ce qui correspond également à la définition du phénomène religieux que donne Paul Tillich, une attitude à l'égard de l'inconditionné.
Mais selon vous, par exemple, est-ce que la croyance est importante ou y a-t-il quelque chose à vérifier, enfin bon, on verra ça. Hein. Oui,
bah, peut-être qu'il y a encore des. C'est une construction mentale. Donc, elle n'existe pas chez les bouddhistes.
De quoi là ?
C'est une construction mentale, il y a une émotion aussi, donc c'est pas sur ça qu'on se repose.
On ne se repose pas, mais dans les pays bouddhistes, il y a de la croyance.
Je ne dirais pas qu'elle n'existe pas dans le monde bouddhiste. Hein.
Voilà.
Elle est présente.
Bah, le Tibétain qui tourne son moulin de prière, il n'est pas forcément éduqué à comprendre le bouddhisme comme vous le comprenez. Enfin, si jamais vous le comprenez.
Pour moi, il n'y a pas de croyance. Parce que c'est une construction, c'est lié à une émotion. Quand il y a croyance, il y a un sentiment de peur qui est derrière. Alors que pour moi, c'est vraiment l'expérience... au katsu, ça nous permet de vérifier que...
Ça, c'est déjà...
Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dent de Bouddha ?
Oui, parce que c'est une fausse dent que son fils est allé...
C'est une dent de chien.
Oui.
C'est pire qu'une fausse dent. Une fausse dent, c'est chez le dentiste.
Il fait croire, parce qu'elle croit, et du coup, ça... Ouais.
Donc, si elle croit, c'est quoi, selon vous ?
C'est une construction mentale à la base.
Les aliens viennent suivre le chemin. enfin, il est universel.
c'est quand même une construction mentale à la base. Parce que
ce soit une construction mentale, on est tous d'accord. Mais dire que c'est parce que c'est une construction mentale que ça n'existe pas dans le monde bouddhiste, je ne suis pas d'accord. Personnellement. Allez-y, défendez votre point de vue.
Alors oui, peut-être qu'on se sert des constructions mentales.
J'ai gagné.
On se sert des constructions mentales, mais on sait que c'est un support, quoi. Elles sont parallèles, elles sont illusoires.
Voilà, c'est ça. Si je prends votre point de vue, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un aspect absolu et un aspect relatif. Oui. Mais l'aspect relatif, on est obligé de le baser, de le positionner dans le monde bouddhiste sur des supports. Les supports sont des supports, peuvent être aussi des supports de croyance ou des supports de compréhension. L'aspect absolu est automatiquement dans le monde bouddhiste, s'appuie automatiquement sur un aspect relatif. Donc, effectivement, j'entends bien votre point de vue, mais on ne peut pas dire que le bouddhisme est absent de cet aspect de croyance que l'on retrouve dans d'autres religion, pour le coup, comme le christianisme.
Mais c'est pas le même niveau de croyance.
Bah, ça dépend, parce que par exemple, si vous allez au Japon dans un temple et que vous voyez des étudiants japonais qui s'inclinent devant le Bouddha et qui mettent quelques piécettes, parce qu'en général il y a une espèce de grille pour mettre des pièces, si vous pensez que c'est vraiment pour une foi vraiment et un aspect de transcendance, vous trompez, c'est juste pour avoir leurs examens. Et ils ont un rapport, en fait, au Bouddha, comme un rapport on a à Saint-Antoine de Padoue, par exemple, où moi, je pourrais aller déposer un cierge, puisque je viens de perdre mon iPad. Voilà. Et là, ça serait aussi de la croyance. Et c'est une croyance populaire. Donc, au niveau populaire, la croyance, elle est partout. Et dans le bouddhisme, autant qu'ailleurs.
Je ne savais pas que Saint-Antoine de Padoue était fort pour le digital.
Ah, non, c'est la première chose.
Tout ce qu'on a perdu.
Saint-Antoine de l'iPad.
Voilà.
Mais la foi, par exemple, j'avais bien expliqué la différence que je fais entre la foi et la croyance.
La foi, c'est plus un sentiment intérieur. La foi.
C'est basé sur l'expérience.
C'est basé sur l'expérience.
Dans le bouddhisme.
Oui, dans le bouddhisme.
Parce que dans le christianisme, la foi et la croyance vont être beaucoup plus confondues. Parce qu'il n'y a pas une preuve tangible au départ.
Avant de continuer, est-ce que ça vous dirait de pousser un petit peu les tables et d'être un petit peu plus circulaire? C'est-à-dire qu'au fond, on ne va pas participer au débat et je trouve ça pas bien. Voilà. Les gens en webcast qui doivent s'amuser là. Vous n'avez pas trop le mal de mer, ça va? Est-ce que le fond, vous allez vous rapprocher? Est-ce que la caméra, on peut peut-être la repousser un petit peu? Oui. C'est ça le monde bouddhiste, hein, bouger toutes les structures. C'est traditionnel chez nous. Mais on voit le fond, c'est bon. Ok.
Les gars, ils sont à côté.
Oui, oui.
Alors, la croyance et la foi. Donc, tu faisais le distinguo entre croyance et foi. Foi vient du latin fides. Est-ce qu'on part sur cette définition-là pour toi ou...
Il faudrait mieux partir de Shraddha.
Ouais.
C'est vrai que Shraddha va avec credo en latin. Et credo, évidemment, on peut penser aussi à une racine de croyance. C'est pour ça que d'ailleurs, chez nous, ce n'est pas aussi clair la différence entre les deux.
Chez nous, c'est chez qui?
Chez nous, les occidentaux, disons. Ouais. Et notamment dans le christianisme. Je pense qu'il y a une distinction qui n'est pas toujours bien faite, parce qu'il y a quand même la croyance en un principe transcendant, mais qui n'est pas forcément pour le fidèle, le fidèle moyen. On lui promet quelque chose, finalement, qui ne se verra qu'après la mort, très souvent. Et il n'y aura pas véritablement... à moins que ce fidèle, effectivement, soit quelqu'un qui dépasse la simple croyance, conventionnelle, et aille... lui-même faire un chemin spirituel. Et là, dans ce cas-là, il aura une expérience, probablement, de quelque chose. Donc là, ça rejoint plus la foi du point de vue bouddhiste. du point de vue bouddhiste, la foi, c'est vraiment quelque chose qui doit être... Il y a une foi désireuse, mais ensuite, il y a une foi vraiment qui est corroborée par l'expérience, à travers la pratique, qui fait que la foi se renforce, effectivement, d'une façon beaucoup plus... Oui, c'est ça. Enfin, elle est beaucoup plus concrète, dans le sens où c'est vraiment quelque chose de vécu de l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est un sentiment, effectivement, qui va être... et qui va devenir de moins en moins affectif et de moins en moins conceptuel. C'est ça qu'on pourrait dire.
Pour nous, les choses sont, il me semble, parfois un peu plus compliquées, parce qu'en quelque sorte, on prend le train en route. Alors moi, je considère que j'ai pris le train en route, je suis tombé dans un monde où il existait déjà, on m'a dit, il existait déjà des religions constituées. Si j'avais appartenu à la génération des hommes qui vivaient au temps du Christ, la question de religion par religion se posait probablement pas dans les mêmes termes.
Oui, tout à fait.
Concernant le mode d'entrée dans une religion ou dans une autre, il y a la question des circonstances, des rencontres, il y a aussi la question de l'expérience personnelle. Il y a un nombre de chrétiens. Il y a des chrétiens qui se retrouvent chrétiens parce qu'ils sont dans une famille chrétienne. Ils y entrent peut-être pas sur la base du sentiment religieux au départ. Ils y entrent parce qu'on va la messe le dimanche, parce qu'il faut faire ceci et pas cela. Et puis il y a aussi un certain nombre de chrétiens qui témoignent régulièrement de quelque chose qui leur est, alors selon nous, tombé dessus, ils ont été saisis, et donc c'est une expérience fondatrice,
voilà.
À partir de laquelle il y a une sorte d'évidence qui s'impose, qui fait éclater le cadre traditionnel, et après, autour de ça, en particulier pour ceux qui restent engagés et qui témoignent, ils creusent cette expérience, ils l'entourent, ils commencent à étudier des textes, et à ce moment-là, ils se déclarent un jour croyants chrétiens. Donc c'est assez...
Avec l'expérience d'un appel.
Oui, c'est ça, oui.
Il n'y a pas forcément dans le bouddhisme, mais dans le christianisme, c'est très fréquent, ils se sentent appelés.
Oui, mais ils n'ont pas forcément... Il faudrait creuser et travailler avec des gens qui sont des témoins de ce type pour savoir comment a été vécu cet appel. Est-ce qu'ils mettent un nom tout de suite? Est-ce qu'ils mettent une forme? Est-ce qu'ils font ces distinctions entre sacré et profane? En tout cas, c'est quelque chose qui semble bouleverser une vie, radicalement. Et ça peut arriver à n'importe quel homme, dans n'importe quel endroit de la planète. Après, selon le contexte dans lequel on est, on peut soit se retrouver naturellement dans la religion, dans celui de la religion dominante, soit autre chose. Aujourd'hui, c'est très facile de tomber dans le bouddhisme. Et il n'est pas du tout évident que des personnes qui font, et on est sûrement ici quelques-uns à avoir fait ça, qui vivent ce type d'expérience, la couleur d'abord du bon bouddhisme, parce que aujourd'hui, le bouddhisme est plus fréquemment rencontré qu'il y a 50 ans, il y a un siècle.
Ça pose la question de la situation singulière des bouddhistes occidentaux.
Voilà.
Parce que ce n'était pas forcément quelque chose d'évident au départ, mais c'est... Voilà. C'est les circonstances historiques ont fait que le bouddhisme arrive. Donc on n'a pas la situation d'une religion qui est celle de nos parents ou de nos arrière-grands-parents, etc. Alors qu'en Asie, il se pose le même problème que pour les catholiques en Occident, c'est-à-dire il y a un bouddhisme d'habitude, familial, où là les gens n'ont pas forcément... voilà, c'est un peu un automatisme de famille.
Mais en Asie, il y a aussi des précédents. L'arrivée du bouddhisme en Chine, l'arrivée du bouddhisme au Japon, l'arrivée du bouddhisme dans le monde tibétain. Tout ça, ce sont les mêmes caractéristiques à des périodes différentes, mais des pénétrations du bouddhisme sur un sol qui n'est pas natif. Le bouddhisme n'était pas vernaculaire. Donc ce sont des questions qui sont effectivement d'actualité, mais qui ont toujours été d'actualité. Et lorsque l'on parle des religions, l'aspect de pénétration géographique est également important pour la très grande majorité des religions. Donc cet aspect, il faut quand même essayer de rester dans le cadre de la question, c'est est-ce que c'est véritablement une religion? Très certainement. Il y a des marques, et beaucoup de marques, qui font du bouddhisme une religion de façon indubitable.
Mais pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question à propos du bouddhisme? Pas vraiment à propos du christianisme ou de l'islam? Parce que il y a une sorte de...
Le non-soi.
Pardon ?
Le non-soi.
Le non-soi. Oui, le non-soi, c'est cette idée un peu baroque au départ d'une religion non-théiste, mais qui n'est pas athéiste. On peut se demander dans quelle marmite on est tombé. Quand on
ça appelle la deuxième question.
Ça appelle la seconde question, mais nous allons y arriver, bien sûr.
Oui, oui.
Mais c'est aussi la vision, il ne faut pas oublier la vision des premiers découvreurs, soi-disant, hein, des premiers découvreurs occidentaux du monde bouddhiste, qui l'ont d'abord assimilé à un polythéisme, et puis l'ont assimilé à, on ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire un aspect non défini, en fait, d'une religion ou d'une spiritualité.
Et à un moment donné, haut et froid, un culte du néant.
Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect historique au niveau de la connaissance, de notre connaissance au niveau de l'Occident, de la nature de ce qui était découvert.
Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question pour nous aussi, parce que ça fait 2 siècles que le bouddhisme est l'objet de projections occidentales. Ouais. C'est-à-dire, dès l'instant où l'Occident rentre en connaissance de quelque chose, il va toujours... Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on a véritablement, le dominant culturel qui fait qu'on s'approprie et on va, en quelque sorte, conformer à l'image que l'on attend. Par contre, donc, on va avoir du mal à regarder la chose telle qu'elle est.
Philippe, je pense que ça date d'il y a beaucoup plus que 2 siècles.
Ah oui, 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 parce qu'il y a les missionnaires aussi avant.
Vous avez entendu parler de Saint Josaphat ?
Oui.
Qui ne connaît pas Saint Josaphat ? Ah, ceux qui connaissent Saint Josaphat, est-ce que vous pouvez dire qui est Saint Josaphat ?
Saint Josaphat est apparu au Moyen-Âge. À quel moment du Moyen-Âge, je ne saurais le dire. Voilà. Et en provenance d'Asie, et il était assimilé, c'était en fin de compte le Bouddha transposé au niveau d'un saint chrétien, Saint Josaphat. Et alors, on expliquerait ensuite les cathares et les bogomiles par une interprétation plus ou moins correcte de cette notion de tout ce qui était véhiculé avec ce fameux Saint Josaphat. C'est-à-dire basé sur une sorte de manichéisme aussi très, très, très tranché entre la notion de bien et de mal, etc. L'absolu est relatif.
Voilà. Ça, c'est plutôt assimilable au New Age actuel. Hein. C'est-à-dire, c'était les idées, c'était aussi un grand fourre-tout. Ce que l'on sait par contre, de façon sûre, c'est qu'il y avait une pénétration indubitable du monde bouddhiste sous une forme philosophique ou autre dans le monde du Moyen-Âge occidental. Et bien entendu, comme tu dis, Philippe, la façon de penser prédominante d'une culture va automatiquement l'assimiler. Et donc le Bouddha ne pouvait être en aucun cas autre chose qu'un saint, un saint parti très très loin évangéliser les campagnes asiatiques. Donc il y a des précédents. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas penser que notre société actuelle, notre civilisation, est en train de connaître quelque chose que le monde n'a jamais connu. Ça, c'est indubitable que non. Par contre, effectivement, nous avons peut-être rajouté à la complexification du point de vue de la classification, en fait. C'est-à-dire d'un point de vue scientifique, purement et simplement. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre religieux, qu'est-ce qui ne rentre pas dans le cadre religieux, c'est notre façon de classifier aussi en Occident. Et dans tout le monde classique, traditionnel, avant le 19e siècle, il est absolument impossible de décorréler, par exemple, le sacré du profane. Le pouvoir, par exemple, le pouvoir royal est autant un pouvoir sacré qu'un pouvoir profane. Et c'est pareil chez les Tibétains, cette relation de Choyun, ou c'est pareil dans le monde musulman, où justement la religion, eh bien, c'est ce qui guide ceux qui règnent sur les autres. Donc, on ne peut pas, selon moi, on ne peut pas envisager en fait un aspect religieux tel qu'il est classé ou classifié dans notre société moderne à l'heure actuelle. On ne peut pas classifier les traditions de ce point de vue-là de façon aussi simpliste. Et c'est pour ça que, l'idée de croyance, lorsque on pense en fait que le bouddhisme n'est uniquement que ça et pas ça, C'est une approche qui est trop partiale par rapport à ce que peut représenter en fait tout le monde bouddhiste ou toutes les religions d'ailleurs de l'humanité. Ah, donc, quelle serait la réponse à cette question ? Oui, voilà. Vous voyez, 5 minutes hein, pour répondre.
Est-ce qu'on peut parler de sacré et de profane dans le bouddhisme, puisque c'est une notion qui ne s'applique pas tellement, en fait
Pas de la même manière.
Non, pas de la même manière.
Pas de la même manière. Ce n'est pas un interdit, le sacré.
Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas...
Non. Et puis, ce n'est pas assimilable à notre idée de laïcité, religiosité, non plus.
Donc, si on la fait rentrer dans la catégorie des phénomènes qu'on va énumérer pour dire que c'est une religion, si on regarde le caractère sacré et profane,
il faut y réfléchir différemment. Encore une fois, parce que il y a des idées du sacré et du profane qui ne correspondent pas au monde bouddhiste, et il y a quand même une forme de sacré, et quelque part, il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir une vision qui ne peut pas accéder à la vision, à la perspective, par exemple, à la vision pure. Voilà. Donc ça serait ça l'équivalent, une vision souillée en quelque sorte par les obscurcissements, et une vision pure des choses telles qu'elles sont, qui serait effectivement le sacré, mais sans avoir un caractère effectivement de terreur du sacré, etc. Il n'y a pas du tout ça. Au contraire, dans le bouddhisme, on va s'efforcer de présenter le sacré comme la vision que le pratiquant va pouvoir y accéder. Alors que, en général, le sacré, c'est réservé souvent à une prêtrise. Hein, dans les religions anciennes, c'est souvent ça. Et puis, on ne va pas au-delà d'un certain point dans le temple. Hein. Seuls les prêtres y ont droit. Hein. Le Saint des Saints, c'est réservé. Le Naos, etc., on a toute cette espèce de division du monde entre ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré. Évidemment, le bouddhisme ne joue pas ça.
Mais si on a la vision pure, est-ce qu'on pourrait dire que tout est sacré ?
Of course.
C'est pour ça que moi, j'aurais envie de dire que le bouddhisme, c'est une religion, certes, ça me va, mais ce n'est pas que une religion pour moi. C'est aussi autre chose. Parce que dire le bouddhisme, c'est une religion, c'est angler le bouddhisme sur un certain angle et croire que ça y est, on a capté l'essentiel de ce qu'est le bouddhisme et bon, on peut continuer à vaquer à ses occupations. Pour moi, vraiment, le bouddhisme, ça a une face qui se présente comme une religion, ça fonctionne comme une religion, mais ça a aussi d'autres faces, d'autres fonctionnements et d'autres ressorts qui vont bien au-delà. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Mais de même pour le christianisme.
Voilà.
Oui, alors c'est un autre débat.
De même que le christianisme.
De même que le christianisme.
Parce qu'on pourrait aussi les définir comme une voie spirituelle à ce moment-là.
Ou une philosophie. Théiste ou non théiste.
Mais ça ne suffit pas.
Une sotériologie au sens où ça dépasse, où c'est une philosophie qui amène à une libération, qui ne reste pas au niveau des concepts et au niveau de l'intellect.
Mmh. Le salut, on l'appelle libération dans le bouddhisme. Ça fait dire. Mais il y a eu trois gros trucs hein, en Occident qui ont pas facilité les choses par rapport au bouddhisme. C'est une projection athéiste qui a voulu s'emparer du bouddhisme contre l'Église catholique. Hein. Il y avait tous les gens qui ont voulu changer, séparer l'Église et l'État. C'était en plein dans cette espèce de débat que le bouddhisme a été brandi comme une possibilité de spiritualité, mais qui ne soit pas, qui soit pas une religion. Donc du coup, on a dit c'est une philosophie. Hein. Et alors, il y a tous les zénistes qui ont enchaîné, parce que les zénistes, en général, c'est des anti-religieux. Donc, du coup, ils sont très... ils insistent là-dessus. Mais c'est pas vraiment juste, non plus.
Les zénistes.
Il y a les chrétiens qui, eux, ont dit, au contraire, « Oh, quelle horreur, c'est un culte du néant. Hein? » Alors, ça aussi, c'est une autre projection énorme. Et puis, il y en a une troisième, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs. Il y a la projection théosophique, alors qu'elle a foutu un foutoir, mais extraordinaire, en mélangeant tout. Hein, mélangeant tout et en faisant une espèce de mixte entre l'hindouisme, le bouddhisme et puis l'évolutionnisme. Voilà. Et on a bien touillé le tout pour que les gens n'y comprennent plus rien.
Ce point de vue-là est très intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du cours sur l'histoire du Bouddha, la vie du Bouddha, mais c'était exactement ce qui s'est passé du temps du Bouddha avec les Samanas, par exemple, qui n'arrêtaient pas de développer des idées sur toute la réalité, absolument sur tout. Il y avait un brassage d'idées absolument phénoménal. Donc, c'est une richesse aussi. C'est effectivement un foisonnement, donc une possibilité de se perdre, mais également une richesse si on le prend plutôt de façon constructive. Donc, c'est aussi ça peut-être cet aspect intéressant qui touche les religions à l'heure actuelle. C'est aussi une redéfinition à l'heure actuelle du principe religieux, du principe laïque. Voilà, on est en plein. On est en pleine restructuration.
C'est une question importante. De répondre à est-ce que le bouddhisme est toujours une religion ? Dans le monde d'aujourd'hui, compte tenu de...
Il y a des aspects importants, parce que, par exemple, quand la Belgique se demande comment elle va faire pour faire rentrer la reconnaissance du bouddhisme dans un cadre législatif, est-ce qu'on se considère comme une conviction, c'est-à-dire quelque chose de philosophique, ou une confession ? Et ce n'est pas les mêmes cases, et c'est le bordel, et... Ça fait 5 ans que ça dure. Alors, et ça risque de durer longtemps parce qu'ils ont choisi conviction philosophique. Alors que si on s'était mis du côté des religions, étant donné que l'islam a été accepté, on aurait pu facilement passer derrière l'islam.
Est-ce qu'il faut considérer à ce moment-là plusieurs niveaux ? Il y a le niveau dont tu parles qui est un niveau social. Il y a un certain nombre de contraintes dans lesquelles toute pratique humaine doit s'inscrire pour pouvoir trouver sa place. Et la question se poserait de savoir s'il est important, s'il faut ou non être reconnu comme religion socialement, et puis le niveau en dessous, au-dessus, à côté, je ne sais pas, celui d'un individuel. C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour moi de répondre à la question, le bouddhisme n'est-il pas une religion ? Que ce soit une pratique, par exemple, ça me semble évident, mais peut-être que c'est choquant, parce qu'en fait, les seules choses réellement importantes, ce sont effectivement les pratiques. Il y a des pratiques politiques, des pratiques sociales, des pratiques dites religieuses. Aujourd'hui, elles sont juxtaposées. On voit les difficultés, les conflits que ça suscite. Le fait d'être défini ou pas comme religieux aujourd'hui, ça a une importance considérable. C'est très très important.
Oui,
c'est pas du tout anodin.
Il ne faut pas s'excuser d'être religieux. C'est
non,
ça le problème.
Ce n'est pas la question de s'excuser, mais c'est la question de savoir si c'est, non seulement si c'est utile ou pas, mais s'il faut ou pas. Donc effectivement, pour être reconnu comme congrégation, pour avoir son quart d'heure d'antenne tous les dimanches, c'est important d'être reconnu comme une religion, parce que c'est comme ça encore qu'on fonctionne.
Exactement. Par exemple, si tu veux avoir, si tu as des moines dans une communauté qui vivent dans un lieu, il faut absolument réussir à avoir la congrégation. Et même la congrégation, il faut l'autorisation de l'évêque, à l'heure actuelle dans la législation française. Donc le bouddhisme a intérêt à se faire reconnaître comme religion pour avoir l'aval de l'évêque qui est nécessaire pour que la congrégation puisse se dérouler d'un point de vue législatif.
Ça veut dire
légal.
Une réponse dans l'absolu à le bouddhisme est une religion, mais qui a un certain nombre de conditions qui peuvent être intéressantes en tant que pratique de remplir pour pouvoir, selon la visée, enfin, socialement, mais c'est sûr. Ouais.
Mais en Belgique, c'est pas plié définitivement.
Ah non. C'est jamais plié.
C'est ouvert. C'est toujours ouvert.
C'est toujours ouvert. C'est toujours en débat.
On est d'accord.
C'est une question qui est intéressante à se poser parce que ça te permet de te questionner sur le mot religion et sur ce que tu plaques dessus et tout ça. Déjà, rien que pour ça, c'est intéressant.
Vous aviez une remarque, peut-être.
Oui. Ben, oui. Ça, j'en profite d'être présente parce que je suis les cours depuis Montpellier toute l'année.
Ah, voilà, c'est bien. C'est mieux en vrai. Hein.
Voilà, c'est bien. Je suis pas dit. Et j'ai pas pu poser la question parce que j'étais dans ma chambre sur poste de télévision. J'en profite donc pour vous demander si, alors, bon, je vais un peu déborder sur la question 2. J'ai compris dans les cours voilà, que le bouddhisme n'était pas une religion théiste. Mais je me posais la question si le panthéisme peut être défini comme une doctrine dans laquelle Dieu est identifié au monde. Est-ce que c'est une erreur de dire que le bouddhisme est un panthéisme si, alors là, je vais reprendre les mots de Philippe Cornu dans les premiers cours, quand il dit que c'est dans l'immanence que le sacré se révèle dans le bouddhisme, ou que la dimension absolue est la nature ultime de tout ce qui nous apparaît trompeusement comme monde phénoménal. Voilà, c'était une question que je me posais, si c'était une erreur d'accès de l'athéisme et de l'athéisme.
Le problème, c'est la théosophie. Bah, ça dépend de la définition que vous avez des dieux, ou du dieu, ou de dieu, ou... Parce que c'est le problème. C'est, si on considère que Dieu est extérieur, alors évidemment, on ne peut pas dire que le bouddhisme est théiste. Si on considère que la nature de Bouddha, en tirant vraiment le truc, c'est le Dieu qui est en nous, c'est pas le Dieu au sens de la définition bouddhiste. C'est pas du tout facile d'être sûr que ça sera le sens même accepté par d'autres religions. Donc le problème, c'est que là on se trouve dans un terrain où c'est les mots qui sont glissants et qui sont extrêmement délicats à manier. Je dirais que d'un point de vue absolu, on s'en fout qu'on appelle ça Dieu ou qu'on appelle ça la nature de Bouddha, mais d'un point de vue du langage et puis de la définition et puis de savoir quelle doctrine on structure pour comprendre là où on est, il y a quand même des points très délicats, et je pense que le panthéisme, c'est pas acceptable.
Mais tout à l'heure, vous disiez à madame, quand madame disait tout est sacré, vous disiez yes. Et dans le panthéisme, il y a l'idée que tout est sacré, non? Enfin, peut-être que c'est une erreur.
Oui.
C'est souvent l'assimilation qui a été faite, par exemple, au Japon, notamment dans le Shingon. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est dans le monde bouddhiste, tout est sacré parce qu'on a reconnu la nature fondamentale de cette sacralité, alors sacralité entre guillemets, la nature fondamentale du vide d'existence propre de tous les phénomènes, et donc c'est pour ça que tous les phénomènes sont sacrés. Mais les phénomènes dans le monde bouddhiste ne peuvent pas être sacrés par eux-mêmes. Là, c'est aller complètement, justement, à rebours de ce qui a été énoncé par le Bouddha. Donc, je n'utiliserai pas non plus le terme de sacré ou de sacralité sans le définir, c'est-à-dire le sacré, dans ce sens-là, c'est vide d'existence propre, vide de lien entre les phénomènes de la réalité, et donc purement essentiel. Si c'est ça que vous appelez le sacré, c'est valide dans le monde bouddhiste, mais toujours en partant de la nature fondamentale. Jamais en se basant sur les phénomènes sont sacrés en extérieur par eux-mêmes, indépendamment de ma propre nature. Voilà. Et c'est là où en fait notre vision doit s'adapter à nous occidentaux. Pourquoi ? Parce que nous, occidentaux, nous avons été bercés par une culture de l'extériorité, c'est-à-dire on est dans un aspect de religion exotérique, c'est-à-dire avec un regard externe sur le sacré. Les figures sacrées sont des figures sacrées par elles-mêmes. Ça n'est pas parce que vous avez reconnu votre nature sacrée que donc ces figures sont sacrées. C'est parce qu'elles sont sacrées par elles-mêmes, le Christ, la Vierge, etc., qu'elles sont sacrées. Ça n'est pas du tout le point de vue du bouddhisme.
Dans votre cours sur le Mahayana, vous expliquiez qu'on apprenait justement à voir...
Oui, tout à fait, à travers les pratiques, la visualisation, etc. Oui, tout à fait. Ok, donc la question 2 est pliée aussi. On l'a bousillé, c'est dommage. Au fond, vous dormez au fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Le bouddhisme est-il une religion ou pas? Oui? D'accord. J'adore les réponses courtes, c'est les meilleures.
On est d'accord que les déités, elles nous servent de support pour...
Pour notre nature à nous.
Oui, voilà. Pour réveiller les qualités d'éveil qu'on a en nous. Mais on les a aussi. Donc c'est un rapport d'égalité. On s'en sert. C'est un moyen habile, les déités. On est d'accord.
Alors, c'est un moyen habile, oui, bien sûr. Mais,
pas seulement.
Voilà.
Pas
seulement. Si je vous dis, par exemple, que dans la pratique, dans la pratique des yidam, parce que c'est ça que vous appelez des yidam. Vous faites la pratique. Puis un jour, donc là, le yidam, vous en connaissez un?
Guru Drakpo.
Donc, Guru Drakpo, vous l'imaginez, il est là, et puis un jour, vous êtes complètement absorbé, et de façon complètement indépendante de votre volonté, de toute velléité de vouloir faire quelque chose, Guru Drakpo vous parle.
D'accord.
Donc, est-ce que ça vient de vous?
Je pense que oui. Enfin, il faudrait que j'y vive l'expérience. Là, c'est mental. Donc, je réponds mentalement, donc je ne peux pas savoir.
C'est pour ça que je vous dis, on le crée, on oublie mentalement. C'est-à-dire, on est absorbé, le mental s'absorbe, disparaît. Et tout d'un coup, Guru Drakpo a une vie propre. Donc, est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là que Guru Drakpo est à l'origine soi ou en soi?
Alors, ça va être très mental, alors ça va m'embêter. Je vais vous dire qu'il y a une même nature que moi, qu'il est en moi. Mais ça va être un cheminement intellectuel. Il faudra vraiment que je le vive pour ça, pour répondre.
On se retrouve dans 20 ans, si vous voulez.
Quand j'ai fait l'expérience.
Parce qu'il faut le temps.
Dans ces cas-là, je vous le dis, je vous fais part de mon expérience. Mais là, je ne peux pas. Non, ça ne sera que des constructions mentales et de la logique.
Dans le monde bouddhiste, c'est un gros mot, il y a un principe. Il y a le principe de l'aspect illusoire du soi, qui est un aspect déterminé, qui est un aspect... qui suit une logique de cause et de condition, où Guru Drakpo ne peut exister que parce que moi j'existe. D'accord ? Si c'est moi qui fais la pratique, Guru Drakpo ne peut exister que parce que j'existe. Et puis il y a un moment donné où cet aspect-là, cet aspect conditionné du soi, donc de moi, disparaît. Et c'est ça que l'on appelle la nature. La nature est vide d'existence propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un soi à la base qui va déterminer toute la nature, toute la réalité des phénomènes et donc de Guru Drakpo. Et c'est à ce moment-là où Guru Drakpo n'est ni Guru Drakpo ni moi, et c'est à ce moment-là où il peut vraiment s'exprimer. Laissez Guru Drakpo s'exprimer.
La prochaine fois, je vais.
Donc, c'est là où est la difficulté, c'est-à-dire que effectivement, au début, le chemin de la pratique bouddhiste est un chemin obligatoirement de croyance. Et la croyance dans notre monde occidental, la croyance pour les bouddhistes occidentaux, la croyance est très focalisée sur la pratique et le maître. On met un énorme aspect émotionnel dedans. Pourquoi ? Parce que pour nous, croyance... ça veut dire croire en quelque chose ou croire en quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on devient dépendant dans le monde occidental. Nous sommes dépendants en fait de la croyance à laquelle que l'on développe. Et le chemin bouddhiste qui est proposé, le chemin du Bouddha, c'est de petit à petit d'aller d'un aspect de croyance conditionnée à un aspect justement d'expérience déconditionné, non conditionné de la nature. Donc automatiquement, il y a un aspect de foi aussi. Croyance et foi souvent s'entremêlent jusqu'à arriver à ce qu'on appelle des expériences fondamentales sur la nature. Et là, le rapport s'inverse. Pourquoi ? Parce que on peut retrouver la nature de la réalité, du soi et des phénomènes directement, sans passer par un support. Le support qui est donc la croyance, qui est donc, etc., etc., etc. Et donc, c'est là où est la distinction. Mais la difficulté dans le monde bouddhiste, c'est qu'effectivement, on ne peut pas parler de la nature sans en avoir une expérience directe. Et c'est là où est toute la difficulté, parce que souvent, c'est peut-être 10 ans d'expérimentation avant d'arriver à avoir une expérience sur la nature. Donc, pour moi, la première question, c'est automatiquement une religion, au début en tous les cas, de toute façon. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre un aspect extérieur et un aspect intérieur de la religion. Pour moi, donc ça c'est mon point de vue, d'accord, le bouddhisme est une religion au début, automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'elle a des marqueurs qui sont que l'on ne peut pas éviter. La croyance en le yidam, la croyance en le maître, la croyance en le dharma, tout ça ce sont des objets religieux, puisque on va baser notre confiance sur ces objets-là. Et puis, arriver au stade où on fait une expérience directe sur la nature, ça devient quelque chose qui n'est plus une religion. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de se relier à quelque chose d'extérieur. Et là, la nature en elle-même, c'est l'effort fondamental sur lequel on doit se poser, on doit rester, c'est demeurer constamment, encore et encore, sur la nature, quels que soient les supports. Et à ce moment-là, pour moi, ça n'est plus une religion. C'est-à-dire, on est passé d'un aspect externe à un aspect profondément interne. Et là, c'est un chemin. Mais tant que cette expérience-là n'a pas commencé, alors c'est différent de l'entrée dans le courant, ça c'est encore autre chose, parce que vous le disiez tout à l'heure, l'entrée dans le courant, c'est plutôt les obtentions supérieures, c'est l'état d'arahat, etc. Donc là, le principe, c'est celui-ci, c'est que le bouddhisme peut être considéré comme une religion tant qu'il y a un aspect de dévotion externe, et lorsque la dévotion est devenue intérieure, c'est-à-dire la dévotion, c'est le fait de parfaitement reconnaître la nature de Bouddha en soi et en chaque être, si vous prenez le pendant surtout du Mahayana, à ce moment-là, le bouddhisme n'est plus une religion, on ne se relie plus de façon extérieure, nous sommes reliés et nous nous efforçons à rester reliés. Voilà comment j'y répondrai personnellement en tout cas.
Parce que de cette expérience dont vous parlez, on ne peut soi-même pas en parler tant qu'on n'a pas vécu.
Oui.
Et quel lien vous faites entre la pratique du Guru Dakpo, qui au moins initialement démarre par une croyance, puisque le Guru Dakpo a une forme, une apparence qui est culturellement extrêmement typée, pour la plupart d'entre nous totalement étrangère. Et quel lien on peut faire ensuite avec ce moment où la fabrication entre guillemets artificielle s'arrête. De Guru Dakpo du départ éclate pour laisser place à une expérience sur la nature.
Le lien est très simple, c'est que Guru Dakpo sous sa forme exotique, c'est ça aussi beaucoup qui attire les Occidentaux à l'heure actuelle.
Qui fascine automatiquement,
et en tous les cas, qui va être une porte à la nature. C'est-à-dire que... on fait le pari, bien sûr. Rien ne nous dit que ça va fonctionner. Surtout, effectivement, que c'est une forme très exotique. Donc, est-ce que les formes tibétaines vont marcher pour mon esprit français? C'est la question.
Cartésien,
oui. Non, pas trop. Non, pas trop. J'ai arrêté. Donc, automatiquement, c'est un pari. Mais comme c'est un pari dans le monde chrétien, qui vous dit que la communion va vous amener au paradis? Je simplifie, attention.
Le lien que je fais, moi, par exemple, en parlant du monde chrétien, ça, le monde chrétien, ça passe par une figure incarnée qu'on appelle le Christ. Dans les bouddhistes, en tout cas par expérience personnelle, ça passe par un être incarné qu'on appelle le maître. C'est-à-dire pour charger cette figure exotique de quelque chose de vivant, de chaud,
de palpable.
Non seulement de palpable, mais de moteur. Voilà. Il y a la confusion, en tout cas initiale, entre la figure d'un humain particulier et d'une fabrication avec laquelle on demande de jouer, de parce que c'est quand même un jeu mental, là, tu vois, qui se colore, qui se chauffe, qui devient dynamique.
Un jeu mental au début, certes, mais dans le monde chrétien, c'est la même chose. Jésus est toujours assimilé au maître. Si vous quittez un tout petit peu l'aspect exotérique de la religion chrétienne, le maître fondamental, le maître du cœur, c'est Jésus. Hein. Le sacré cœur, c'est Jésus. Donc, il y a aussi, malgré tout, la prière, Jésus est au cœur, ou il est en face. Il y a aussi cette notion-là de visualisation, d'un aspect formel, c'est-à-dire d'un support de prière. Et Guru Drakpur, sa particularité, c'est qu'il est complexe dans ses formes.